Bonsoir à toutes et à tous. Ayez le courage de dire non. Nicolas Hulot écrit une lettre ouverte aux députés pour leur demander de ne pas voter demain la ratification du CETA, c'est l'accord de libre-échange passé entre le Canada et l'Union européenne, accord que Nicolas Hulot juge mauvais pour le climat et la biodiversité. Alors Emmanuel Macron a réagi à cette tribune dès cet après-midi, estimant que le CETA allait, je cite, « dans le bon sens ». Mais les agriculteurs également redoutent une concurrence déloyale avec l'arrivée dans nos assiettes de bœuf canadien nourri aux farines animales et aux antibiotiques. Alors faut-il dire non à ces grands accords de libre-échange avec le Canada, le Japon et bientôt l'Amérique du Sud, puisque un accord vient également d'être signé avec l'Union européenne? Va-t-on trop loin dans la mondialisation? Le sujet divise la classe politique, y compris d'ailleurs au sein même de la majorité. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir. Mondialisation, faut-il dire non au CETA? Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique à l'Express. Nous accueillons Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mathieu Plane, vous êtes économiste à l'OFCE, directeur adjoint au département analyse et prévision. Et enfin, Nicole Ouvrard, directrice des rédactions du groupe Réussir Agra, présidente de l'Association française des journalistes agricoles. Christophe Barbier, tout d'abord, Nicolas Hulot, avec cette tribune qui demande aux députés de ne pas voter le CETA, il explique que cet accord est mauvais pour la santé, pour le climat et pour les agriculteurs. Elle sème le trouble quand même, cette tribune, on voit qu'il vise juste. Hein.
Oui, c'est un coup de tonnerre dans un ciel qui était déjà un peu gris, puisqu'il y a des états d'âme, vous l'avez dit, dans la majorité depuis quelques temps. Ce n'est pas un hasard si le vote a été repoussé. Ce vote devait avoir lieu en fin de semaine dernière, de manière très nocturne, en toute fin de séance. Et il y a eu, je pense, une double angoisse chez l'exécutif. D'abord, de manquer peut-être de troupes au bout de la nuit pour voter ce texte. Et on n'est jamais à l'abri d'une opération commando des oppositions qui, d'un seul coup, arrivent en surnombre et qui trahissent les équilibres du Parlement pour faire un coup. On l'a déjà vu dans des textes passés, on peut remonter en 98 au Pax, où le premier texte avait été rejeté parce que les anti s'étaient mieux mobilisés que les pros. Et donc on craignait un petit peu ce coup de jarnac arithmétique du côté de la majorité. On craignait surtout d'avoir l'impression de faire passer en catimini un texte qui est très important, qui soulève un grand débat public et qui est en débat depuis des années, puisque c'est une négociation qui dure depuis des années. Et donc on a préféré décaler jusqu'à demain pour avoir ce qu'on appelle un vote solennel. Alors un vote solennel, c'est pas les députés qui viennent un par un mettre un bulletin dans l'urne en clamant leur foi personnelle. Mais c'est un moment un peu plus visible de vote qui mobilise normalement plus d'élus dans l'hémicycle et qui amène chaque groupe à donner sa consigne de vote, son explication de vote. Et donc, il y a une prise de parti presque idéologique. Et on va voir pourquoi ceux qui sont contre s'y opposent et ceux qui sont pour le défendent. La droite va être contre, en grande partie, cet accord, alors que la droite, normalement, c'est le parti du commerce, de l'économie, de l'économie
privée.
Oui. Sauf que c'est aussi un parti qui se veut parfois souverainiste, à la mode de Gaulle, et souvent proche des agriculteurs. Rappelez-vous qu'en 93, Juppé et Balladur, à peine arrivés au pouvoir, ont tout fait pour faire capoter les négociations du GATT qui se terminait, qui était là encore un accord de commerce. La gauche, elle, qui aurait dû peut-être être dans l'idée de pousser les arguments écologiques, se réfugie pour l'instant dans une contestation radicale où l'écologie, le drapeau vert brandi du côté de la France insoumise, a remplacé le drapeau rouge. Ils étaient avant contre le libre-échangisme capitaliste. Ils sont maintenant contre le libre-échangisme parce qu'ils polluent. Et donc, ils ont remplacé les arguments, mais c'est le même fond d'opposition. Il reste donc le centre, les libéraux, donc cette majorité. Mais cette majorité, elle est sensible. Elle est sensible aux arguments de Hulot sur la santé. Y a-t-il des produits interdits en Europe qui vont rentrer dans des denrées parce qu'au Canada, ils sont autorisés, des pesticides sur les pommes de terre ou des aliments pour les animaux? Il y a-t-il des secteurs économiques qui vont être déséquilibrés, défavorisés, parce que la nourriture canadienne va arriver avec des prix plus compétitifs? Tout cela, les députés vont le sous-peser.
Mais Christophe Barbier, le vote a lieu demain. Alors c'est un hasard de calendrier, mais il y a Greta Thunberg, la militante écologiste suédoise, qui va s'exprimer devant les députés. Et elle va dire aux députés, pour sauver la planète, il faut changer de style de vie. Donc le matin, ils auront entendu ça, et l'après-midi, ils voteront pour le CETA. Non, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on est sûr que les députés, le petit doigt sur la couture, voteront pour ratifier ce CETA? Est-ce qu'il y aura une majorité?
Il y aura, je pense, une majorité. Je pense qu'elle ne sera pas atteinte sans effet de discipline du côté de la majorité en marche et puis sans qu'il y ait des pertes en ligne avec des gens qui refuseront de s'y associer. Il y a, on l'a vu avec Mathieu Orphelin, ancien député en marche, qui a quitté la majorité au nom de la défense des idées de Nicolas Hulot. Il y a des députés en marche où la sensibilité verte va les bloquer un petit peu. Néanmoins, je pense quand même que l'effet d'autorité va l'emporter. Le président, le Premier ministre sont là avec le président du groupe dont le siège est renouvelable, le président du groupe parlementaire, là, dans les jours qui viennent, ils vont être là pour faire régner l'ordre. Et puis, en ce moment même, le gouvernement a lancé une loi sur l'économie circulaire, une loi sur l'évolution de l'économie qui va dans le bon sens. Donc l'idée, c'est un peu de dire, ratifions ce texte qui, par beaucoup d'aspects, est vertueux pour la France. Soyons vigilants sur les derniers critères, les derniers curseurs dont on ne parlait pas du tout en 2013 quand on a négocié, mais dont on parle aujourd'hui, tel ou tel pesticide, tel ou tel produit, et préparons les accords du futur. Si vous voulez que votre partenaire canadien change ses manières de produire, ben, faut pas bloquer le commerce. Faut D'accord. lui dire au contraire, attention. Si vous voulez que vos produits entrent dans le marché agricole français et européen, faites un effort dans ce sens-là, pensez à l'environnement, parce que bientôt, ça ne sera vraiment plus possible de produire comme vous produisez. Il s'agit plus d'aller dans une négociation inflexion que d'aller dans une rupture. Cet argument peut s'entendre. Si vous n'avez pas de partenaire, parce que c'est chacun pour soi, vous ne ferez pas bouger vos partenaires. Mmh. Et vous laisserez évidemment la porte ouverte à ceux qui pollueront, qui produiront et qui surtout auront des prix tellement faibles qu'ils arriveront toujours à pénétrer les marchés par le jeu de la compétitivité.
Alors, Mathieu Plane, dans sa tribune, Nicolas Hulot dit « De toute façon, ces accords, on les signe uniquement pour gagner quelques dizaines de points de croissance ». On est toujours convaincu de l'intérêt sur le plan purement économique, hein, j'entends, de ces accords de libre-échange. Le libre-échange, le commerce, c'est bon pour la croissance?
Alors, c'est vrai que la théorie nous dit ça. C'est-à-dire que globalement, le libre-échange permet de gagner en croissance parce que chaque pays va se spécialiser dans le domaine où il est le plus compétent, là où il y a le plus de capital, là où les travailleurs sont le plus compétents et qualifiés. Et donc, on doit avoir des avantages comparatifs. Sauf que ce qu'on voit de plus en plus, c'est que c'est par le marché, l'équilibre des prix, en fait, hein, où chacun va se spécialiser. Le problème du commerce, tel qu'il est vu comme ça, il intègre très mal, en fait, tout ce qu'on appelle les externalités. Et c'est là où il y a cet accent-là, hein, sur l'écologie. C'est-à-dire comment on intègre, par exemple, les dommages collatéraux sur l'environnement, si, par exemple, vous produisez, mais vous êtes pollueur. Comment on intègre un prix du carbone. Comment on intègre, effectivement, des risques sanitaires. Tout ça n'est pas dans les prix, ou reflète pas forcément les prix. Donc vous avez ce problème-là, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a intérêt, hein, à commercer. Hein, et le commerce est plutôt une bonne chose, mais il faut un commerce équitable. Équitable, en tout cas, d'un point de vue d'abord de savoir en termes de compétitivité, sur, que ce soit en termes fiscal, réglementaire, mais aussi de savoir est-ce qu'on a des garde-fous sur les risques sanitaires et environnementaux. Et je pense que là, l'accord là-dessus, il n'est pas tellement sur le libre-échange, hein, aujourd'hui. Hein. Finalement, on voit que les gains économiques attendus sont très faibles. Ils sont plus forts pour le Canada. Il faut savoir quand même qu'il y a une asymétrie. C'est-à-dire que le Canada aura accès à un énorme marché, alors que pour nous, le Canada est finalement un tout petit marché. Donc il y a quand même cette asymétrie. Mais la question, elle est vraiment sur ces garde-fous, notamment pour ne pas aller vers un moins 10 ans, notamment environnemental et sanitaire. Et donc là-dessus, le prix et la théorie a du mal à l'intégrer. Donc c'est tout un débat qui va au-delà de la question purement économique et qui renvoie à un débat aujourd'hui qui est quand même plutôt politique, à mon avis.
Mais Philippe de Sertine, dans ces accords de libre-échange, vous le disiez à l'instant, chacun pousse ses avantages. On se demande bien quels sont à nous nos avantages. Je dis ça parce que quand on fait ses courses, autrefois, les produits étaient made in France, maintenant c'est made in China, c'est toujours made in ailleurs. Et on a l'impression qu'on est les grands perdants de cette mondialisation et que même sur un plan purement économique, à un moment, il faut dire stop, on va garder nos usines et nos emplois. On a tort de penser ça?
Non, là, en fait, vous êtes en train de parler politique. Et c'est vrai que l'économie, forcément, est obligée d'intégrer la question politique. Et d'ailleurs, les économistes, s'ils n'ont pas toujours une âme, ont souvent une opinion politique. Hein, et donc, vous aurez des visions un peu différentes de ce point de vue, ce qu'on doit avoir à l'esprit. Alors, peut-être tout de suite sur le Canada, il faut quand même rappeler, quoi, le Canada, c'est évidemment la tribune, là, aujourd'hui, de M. Hulot, est une tribune très, très, très dure. Mais le Canada est un des premiers pays, enfin, des pays ayant le plus rapidement ratifié les accords de Paris. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelqu'un qui s'est mis en contradiction avec la COP21. Et même M. Trudeau, le Premier ministre canadien, a même été considéré de son propre camp et dans son pays comme étant presque un peu excessif dans la manière dont il allait vouloir taxer les problèmes de carburant, etc. C'est-à-dire le Canada, alors évidemment, a une économie qui est très fondée sur, on va dire, tout ce qui est les hydrocarbures, etc. Donc beaucoup d'éléments associés à l'énergie ancienne. Mais néanmoins, ce n'est pas du tout un pirate, on va dire, du point de vue environnemental. Donc là, on va dire qu'on est avec probablement beaucoup de questions politiques qui interfèrent. Quand on a eu des problèmes agricoles, on va y revenir tout à l'heure, sur la question agricole, évidemment, l'Europe bloque. Et en réalité, quand on regarde la façon dont les blocages se sont faits depuis 2 ans que le traité a été mis à l'épreuve, parce que là, tout le monde est très, très prudent. On fait très, très attention à la manière d'envisager les choses. On sait bien que le politique aujourd'hui n'est pas aussi favorable qu'il a été dans le passé sur les questions de libre-échange. Donc, on fait très, très attention à ça. Donc là, effectivement, quand on regarde aujourd'hui, on est très surpris de voir la virulence avec laquelle semble commencer le débat politique à l'Assemblée nationale française, alors qu'en ce qui concerne le traité avec le Canada, quand même, ça semble semble pas être l'endroit où on va focaliser toutes les problématiques liées à ces externalités, liées par exemple à ces questions environnementales, sur lesquelles je crois vraiment l'opinion publique canadienne est au moins aussi attentive que l'opinion publique européenne dans son ensemble et l'opinion publique française tout spécifiquement. Donc voilà, hein, je pense que là, quand on est en train de regarder cet ensemble, on doit plutôt regarder effectivement probablement la question politique. Après, si vraiment on va vers ce qu'on disait tout à l'heure, la question c'est l'alternative. Si on ne fait pas de libre-échange, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on ferme les frontières.
Mais alors, parce que ce traité, il ne concerne pas que l'agriculture, il n'est pas question que de bœuf et de fromage, c'est un accord global. Donc ça
98%. Des 98%
des
opérations.
Les pièces automobiles, tout vendre aux Canadiens maintenant, sans droits de douane.
Voilà, on enlève les droits de douane. Hein, c'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas qu'on oblige les gens à acheter du Canadien, on oblige les Canadiens à acheter de l'Européen, c'est qu'on diminue énormément les droits de douane, qui sont normalement, quand on dit on est protectionniste, on fait comment ? On augmente les prix de celui qui importe avec un droit de douane qu'on n'applique pas sur les locaux. Donc là, c'est de dire, on va arrêter ça. Et d'ailleurs, quand on est en train de dire du point de vue économique, vous voyez, si on est strictement sur l'observation, là, actuellement, Mathieu Plane disait à terme, c'est plutôt le Canada qui en profitera. Depuis deux ans, on va dire, c'est surtout l'Europe.
Alors, depuis deux ans, parce qu'en fait, ce qui est alors très curieux, c'est qu'on est en train de signer un accord, enfin un traité, qui est entré en vigueur en septembre 2017, à titre provisoire. Alors justement, Nicole Ouvrard, les agriculteurs, ce sont ceux qu'on entend le plus pour dénoncer cet accord de libre-échange, hein, puisqu'on entend très peu les industriels se plaindre. Cet accord de libre-échange, il est entré en vigueur en septembre 2017. Alors est-ce qu'on a des chiffres pour dire, mais oui, effectivement, les éleveurs sont les grandes victimes de cet accord de libre-échange qui est entré en vigueur, on le dit, à titre provisoire depuis deux ans, près de deux ans.
Alors, il y a des chiffres qui sont sortis aujourd'hui à la Commission européenne. Alors, si je reprends les ventes entre juin 2017 et mai 2018, donc 2017-2018, d'accord, par rapport à 2018-2019 en valeur. Les échanges Union européenne-Canada ont augmenté de 7% et les échanges Canada-Union européenne ont baissé de 10%.
Donc, nous sommes
donc pour
gagnants.
L'instant, nous sommes gagnants.
Alors, et vous parlez d'échanges agricoles, là ?
Agroalimentaires. Agroalimentaires. Oui, tout à fait. Alors, sur quoi nous sommes gagnants ? Nous sommes gagnants sur le vin, vin et spiritueux, et sur les produits laitiers.
Et donc, là, on ne les entend pas se plaindre, les viticulteurs.
On les entend pas se plaindre. En fait, globalement, les accords de libre-échange sont souvent favorables pour l'Union européenne sur les produits alimentaires sur lesquels il y a, en fait, on défend des indications géographiques parce qu'à chaque fois, dans tous les accords de libre-échange, l'Union européenne cherche à exporter son modèle avec les indications géographiques.
Parce qu'aujourd'hui, protégées. Au Canada, on vend du faux roquefort. Et désormais, avec cet échange,
voilà,
on va
donc
protéger le roquefort.
Il y a eu en fait tout un travail en préalable de la signature de l'accord sur la reconnaissance mutuelle des indications géographiques. Lesquelles on retient, lesquelles on ne retient pas, quelles sont celles qui étaient déjà utilisées, par exemple, au Canada. Donc, on va leur accorder un délai. Et à partir d'un certain délai, ils n'auront plus le droit de les utiliser.
Roquefort,
voilà,
Saint-Nectaire,
exactement.
Etc.
Et donc, toute cette partie... En général, justement, les produits laitiers, ils gagnent en visibilité. Et globalement, les fromages se vendent bien. Alors, ils se vendent, mais le Canada se protège quand même. Parce que, le Canada est le seul pays au monde qui a encore un système complètement contingenté sur les produits laitiers. En France, les quotas laitiers ont tombé il y a quelques années. Le Canada a encore des quotas laitiers.
Ce qui fait qu'on ne peut pas vendre, on est plafonné, quoi. On ne peut pas
vendre
autant qu'on veut.
En fait, pour protéger son marché, le gouvernement fédéral a donné la moitié des licences d'importation aux fabricants de fromage eux-mêmes. Donc, bon, vous imaginez bien qu'ils y vont mollo, quoi, pour se protéger. Donc, voilà, il y a quand même une augmentation, mais le secteur laitier français et européen
est
gagnant, mais s'attendait encore à plus.
Alors, ayez le courage de dire non. C'est par ces mots que Nicolas Hulot a appelé les députés ce matin dans une tribune à ne pas ratifier l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Le CETA sera soumis au vote demain après-midi à l'Assemblée nationale. La majorité sait déjà qu'elle devra faire face à une forte opposition. Voyez ce sujet de Juliette Perrault et Myriam Zéhar.
10 mois après sa démission, Nicolas Hulot entend continuer à peser dans le débat politique. Ce matin, veille du vote sur le CETA à l'Assemblée nationale, il envoie un message clair aux députés.
Nous avons échoué à apporter les garanties nécessaires sur le veto climatique, les farines animales, les nouveaux OGM, la sauvegarde du principe de précaution à l'européenne. Mais alors pourquoi et pour qui ratifier le CETA ? Demain, comme le voudrait tant le français, ayez le courage de dire non. Faisons enfin preuve de cohérence.
Le CETA, un texte qui cristallise les tensions et dont le vote a même été repoussé la semaine dernière. En cause, une levée de boucliers des députés de l'opposition, jugeant inacceptable l'absence de vote solennel. Cette procédure particulière implique que chaque groupe parlementaire justifie son choix devant l'Assemblée. Or, c'est un vote simple qui avait d'abord été envisagé, qui plus est après les débats en soirée. Le groupe LREM refuse un vote solennel sur le CETA qui aurait permis à tous les députés de voter. Pratique, les macronistes vont pouvoir refuser d'assumer leur position politique et s'abstenir de voter avec une pause pipi, un cours de piscine ou de poney. Honte à eux.
Comme pour l'interdiction du glyphosate, la majorité fera voter sur le CETA en catimini et en pleine nuit demain soir. Bonjour la démocratie.
Des tensions sur la forme, mais aussi et surtout sur le fond. Conclu entre l'Europe et le Canada, le CETA supprime les droits de douane à hauteur de 98% entre les deux zones. Approuvé en février 2017 par le Parlement européen, l'accord est aujourd'hui appliqué à 95%. Mais pour être totalement validé, il doit être approuvé par les 38 assemblées nationales et régionales de l'Union européenne. Or en France, les oppositions sont nombreuses. Écologistes et associations de consommateurs alertent sur les risques environnementaux et sanitaires. Les éleveurs, eux, dénoncent une concurrence déloyale.
C'est pas faire foirer tout, ça.
Mercredi dernier, ils étaient une petite centaine à avoir fait le déplacement jusqu'à l'Assemblée nationale. L'occasion de rencontrer des députés de tous bords ralliés à leur cause.
Il faut extrêmement strict sur la traçabilité. Ça, la traçabilité, c'est quelque chose qui est indispensable.
Par rapport à ça, la traçabilité, on voit bien qu'il y a un élan des ONG, il y a un élan des citoyens. Si vous, députés, vous ne passez pas ça, on ne s'en sortira pas.
Il faut qu'on protège notre agriculture, il faut que les produits qui sont fabriqués ailleurs de l'Europe et qui ne respectent pas les règles françaises, il ne faut pas qu'ils puissent rentrer sur le territoire national. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Socialistes, républicains, communistes, insoumis, Rassemblement national, l'opposition fait front commun contre le CETA. Un désaccord exprimé au grand jour. Hier, 25 députés, les Républicains, ont signé une tribune expliquant pourquoi ils refusent de ratifier le traité.
La France comptera deux types de consommateurs. Les plus aisés qui mangeront des produits locaux de haute qualité et les plus modestes qui devront consommer le pire des produits importés avec une qualité sanitaire discutable. Nous nous refusons à faire de l'alimentation un nouveau signe de marqueur social. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter la ratification du CETA.
Une fronde générale qui relève avant tout de la posture selon Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du dossier.
Ce qui m'étonne, c'est le retournement de veste. Le CETA, il a été initié en 2008-2009 et c'est le président de la République, UMP devenu LR, Nicolas Sarkozy, qui l'a mis sur les rails. C'est le président socialiste François Hollande qui l'a signé en 2016. Et aujourd'hui, je vois les groupes des Républicains et des Socialistes qui s'opposent avec, en faisant beaucoup de bruit et surtout en brassant beaucoup d'air.
Sauf surprise de dernière minute et malgré les multiples oppositions, le traité de libre-échange devrait être ratifié demain grâce au vote des députés LREM et Modem, majoritaires à l'Assemblée.
Alors, question téléspectateur. Nicolas Hulot a-t-il défendu le CETA comme ministre et les socialistes étaient-ils pour, Christophe Barbier ?
Nicolas Hulot explique que quand il était ministre de l'écologie, il s'est battu pied à pied sur le principe de précaution. Et notamment, il s'est battu pour les LMR, c'est-à-dire les limites maximales de résidus. Quand vous prenez un produit et que vous l'analysez, il y a des résidus de tel ou tel produit qui est en dessous d'un certain seuil est autorisé, au-dessus d'un certain seuil est interdit. Et le débat entre l'un des côtés de l'Atlantique et l'autre, c'est moins sur le principe de nos précautionnité que sur ces seuils. Les Canadiens considèrent que nos seuils sont trop bas, qu'on est vraiment trop dans le principe de précaution, qu'on peut consommer un peu plus de ces produits dangereux sans risquer d'avoir un cancer. Les Européens, et notamment les Français, considèrent qu'il faut être beaucoup plus drastique sur ces LMR, ces limites maximales de résidus. Et l'Europe a cédé. Notamment, la Commission a fait accepter des relevés de seuils, des relevés de limites que le Parlement européen n'avait pas voulu valider. Donc là, il y a un vrai litige, à la fois juridique, mais aussi scientifique. Est-ce que c'est dangereux ou non d'absorber telle ou telle quantité de produits quand on mange une pomme de terre canadienne au lieu d'une pomme de terre française? C'est exactement le même débat que sur le plomb de l'église Notre-Dame. Vous savez, Notre-Dame brûle, ça met du plomb dans le quartier. À partir de quand c'est dangereux pour les élèves qui vont à l'école ou pas? Et là, il y a un problème presque philosophique. La France est sur un principe de précaution souvent très, très drastique, presque idéologique. On veut à tout prix prendre le risque zéro en ces matières-là, alors que d'autres pays considèrent que le risque zéro, c'est ridicule et qu'on peut très bien être soumis à des doses raisonnables de tel ou tel produit sans risquer d'être malade. En tout cas, en prenant beaucoup moins de risques en mangeant ces produits importés avec un peu de résidus de produits phytosanitaires qu'en se promenant dans la rue en avalant des particules fines ou bien en habitant dans une maison en granit en Bretagne en prenant du radon. Donc là, il y a un débat qui parfois tourne au débat un peu religieux.
Philippe de Sertine, la nouveauté, donc, c'est qu'on a une droite, alors vous le disiez, sous Nicolas Sarkozy a initié ce débat sur le CETA, enfin les négociations. Aujourd'hui, la droite est contre cet accord. Et on a entendu dans le sujet Christian Jacob dire, dans sa lettre, qu'on allait se retrouver avec l'alimentation allait devenir un marqueur social avec de la viande, alors je vais le citer, de la viande importée, la pire des viandes importées qui serait pour les pauvres, alors que les riches auraient le droit de s'offrir de la bonne viande locale, bio et issue de circuits courts. Ouais. Est-ce qu'on a moyen d'ailleurs de la tracer, cette viande bas de gamme et qui viendrait du Canada?
Bien sûr qu'on peut tracer la viande et qu'on peut tracer les produits. D'ailleurs, l'agriculture française explique bien à quel point elle travaille sur la question de la traçabilité pour que le consommateur sache exactement ce qu'il consomme. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. On peut le faire au Canada aussi. Il est évident, peut-être, par extension, on va dire, si on regarde l'Argentine ou le Brésil, qui peuvent être des accords demain avec Mercosur, ça peut être un tout petit peu plus compliqué. Mais donc là, il y a la question de la double qualité. C'est quelque chose d'absolument crucial. Mais là, pour le coup, c'est vrai que vous dites la droite. Je pense pas toute la droite. C'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Évidemment, M. Jacob est un ancien éleveur lui-même. Hein. Donc on a, je dirais, immédiatement ces approches qui sont des approches, répétons-le, par rapport aux quantités, qui sont des quantités vraiment ridicules encore. Hein. Là, on est sur 100, 200 tonnes de viande de bœuf importée du Canada depuis le début. On consomme 1,55 million de tonnes par an en France.
On n'est absolument pas envahi de viande de Canada.
Enfin, pour l'instant,
c'est une crainte.
C'est une crainte. On est avec une crainte, ou en tout cas, on utilise cette question, et le CETA est utilisé pour essayer de lancer le débat, qui est effectivement un débat qui, politiquement, on va dire, dans l'opinion publique, est fort. Et les élections européennes l'ont démontré. Et on voit bien que les politiques, y compris ceux qui, il y a peut-être 2 ans, 3 ans ou 5 ans, s'en préoccupaient assez peu, tout d'un coup, maintenant, montent en première ligne en disant « Nous devons nous inquiéter de cette double qualité ». La vraie question qui va se poser, probablement dans le futur, à l'échelle mondiale, c'est de dire que, bien sûr, tout le monde ne va pas pouvoir consommer du bio très cher. Parce que ça, effectivement, c'est quelque chose qui va bien pour une population avec des moyens, mais quand on est 8 milliards d'humains bientôt, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable.
On ne peut pas avoir du local bon marché.
C'est avoir de la qualité pour les 8 milliards. C'est-à-dire dire quand on va dire la qualité n'est pas celle du bio ou ne correspond pas exactement à tout ce qu'on évoque dans le bio, est-ce que c'est quelque chose qui, malgré tout, peut correspondre au minimum des qualités que peut attendre n'importe quel consommateur, quel que soit son niveau de vie? Et là, c'est vrai en France par rapport à ce que disent les députés français, mais c'est vrai pour le monde entier. Ouais. Ça, c'est une question absolument cruciale.
Mais ça veut dire que les élus de droite qui étaient autrefois libre-échangistes, ils entendent maintenant, ils ont cette remontée du terrain des agriculteurs entre autres, qui disent « on en a assez de ces cochonneries importées de l'autre bout du monde, nourries avec je ne sais quoi ».
Je pense que du point de vue de ce qui remonte de l'agriculture, vous avez évidemment la concurrence déloyale, et là la question du prix va jouer, mais vous avez aussi ces quantités de normes que la France en plus augmente par rapport aux normes européennes, c'est-à-dire l'agriculture française est en position défensive par rapport à toute l'agriculture européenne qui applique les mêmes normes à la base, mais qui ne les retranscrit pas pareil.
Et l'agriculture on a déjà les normes les plus strictes d'Europe et on se compare avec…
Et les agriculteurs français disent « Écoutez, nous, on fait tout ce qu'on nous demande ». C'était ce qu'on voyait un peu dans le reportage en disant « Mais alors là, nous, on est mieux 10 ans que n'importe qui ». Et tout d'un coup, on va nous dire « Ah ben oui, mais telle viande importée ou tel produit importé peut être comparé au nôtre alors qu'il n'a pas la même exigence ». On a déjà le problème avec un certain nombre de produits européens. C'est vraiment la question de la survie de l'agriculture française, parfois, qui est posée en disant, à la fin, à force d'être tellement normé, on n'aura plus d'agriculture en France et on mangera finalement des produits venant de l'extérieur sur lesquels on n'aura pas de contrôle.
Alors, la droite, enfin, une bonne partie de la droite, maintenant, est contre ces accords de libre-échange. Emmanuel Macron, lui, dit que ces accords vont dans le bon sens, mais on voit que même dans son camp, on a eu Barbara Pompili, donc peut-être figure de proue de La République En Marche, qui dit, alors je la cite, c'est quand même assez paradoxal de promouvoir le consommer local et en même temps de signer des accords intercontinentaux, dit-elle. C'est vrai que ça fait gling-gling, ça, quand même.
Ça fait gling-gling. Le en même temps est compliqué, là.
Ouais.
Non, réconcilier les deux approches, c'est extrêmement compliqué. On voit bien que... finalement,
mais même chez les macronistes,
On voit qu'il n'y a pas non plus un engouement très fort sur ce type d'accord. On voit que d'ailleurs, aujourd'hui, les Français ne sont pas pour le libre-échange. C'est vrai qu'il y a un retour quand même du protectionnisme, du made in France, de ces valeurs-là, du local. Et c'est vrai que dans ce climat-là, concevoir des accords est assez compliqué. Les accords, ça peut avoir du bon, hein, plutôt que d'avoir un rapport de force comme on voit entre les États-Unis et la Chine, qui est certainement moins bon. Maintenant, c'est savoir comment on peut faire des accords qui soient, on va dire, justes, équitables et qui peuvent assurer des garde-fous sur notamment la question de la transition écologique. Et un des grands points, à mon avis, de débat, il est sur les tribunaux d'arbitrage.
Alors, c'est quoi exactement ? Oui, puisque on nous explique que l'un des problèmes de cet accord du CETA, c'est qu'il y a des tribunaux d'arbitrage. C'est-à-dire qu'une entreprise canadienne pourra...
attaquer l'État français.
Parce qu'elle aura décidé d'une norme écolo.
Pas parce qu'elle a décidé, c'est parce que si, effectivement, il y a un changement de législation, de normes, et que ça nuit à son intérêt de chiffre d'affaires, d'échanges, de profits, elle peut attaquer l'État pour dire qu'effectivement les règles du jeu ont changé. Et à ce moment-là, l'État peut indemniser.
Mais c'est une justice privée, c'est surtout ça.
Ça, c'est une justice privée. C'est une justice privée.
On va chercher un juge privé pour faire condamner la France.
Et c'est là où Nicolas Hulot, je pense, est sorti, c'est qu'il a voulu introduire justement des garde-fous avec un veto climatique, en disant, en fait, sur certaines normes climatiques, transition, en fait, les entreprises privées ne peuvent pas attaquer les États. Sauf que, en fait.
Si la France décide une norme un peu plus écologiste, on est inattaquable et aucun juge privé ne pourra nous infliger.
Exactement. C'est ce que voulait Nicolas Hulot, mais au final, on n'a pas ça. En fait, on a juste quelque chose qui dit. En gros, sur tout ce qui est normes climatiques, transition écologique, une entreprise ne peut pas attaquer l'État, sauf pour des raisons discriminatoires. Donc c'est la question discriminatoire. Le problème, c'est que les jurés, je ne suis pas juriste, mais disent que la question de la discrimination, vous pouvez toujours attaquer sur une question de discrimination. Et donc, ce n'est pas un garde-fou suffisamment solide, comme voulait Nicolas dit, sur l'histoire du veto climatique. Donc on a ce problème-là, qui n'est pas lié juste à un problème de libre-échange, il est lié à un problème qui a été soulevé aussi, quelles sont les normes qu'on met sur les limites max de résidus, sur est-ce que les pesticides qu'on utilise en France et qu'on n'utilise pas au Canada, tout ça ne se voit pas dans les prix. Et si on était juste sur une bonne concurrence, ça ne poserait pas de problème. Même, je pense que les droits de douane en soi ne sont pas un réel problème. Je pense que c'est là-dessus, c'est sur les modèles de production, sur les normes qu'on applique, et c'est comment aujourd'hui, dans un monde dans lequel on doit faire des efforts en termes de transition énergétique, on peut encore maintenir des modèles de libre-échange.
Nicole Ouvrard, est-ce que les agriculteurs sont devenus très protectionnistes? Parce que là, on parle du Canada, mais on sait que derrière ce profil, l'accord de libre-échange, il y a le même avec le Mercosur. Donc là, c'est le Brésil, l'Argentine, de gros producteurs de viande bovine derrière. Et donc là, ils disent, bon, on va éteindre le feu canadien, comme ça, on n'aura pas le Mercosur derrière.
Alors, il faut déjà se rappeler, Emmanuel Macron, en arrivant, il a lancé les états généraux de l'agriculture et de l'alimentation. Qu'est-ce qu'il a ? Il a commencé à dire aux agriculteurs, vous êtes mauvais. Enfin, c'est à Rungis, il y avait une grande réunion. Il leur a expliqué, vous n'êtes pas bon, vous serez toujours attaqué sur les produits basiques. Il faut que vous montiez en gamme. Donc, il y a eu des plans de filières qui ont été faits dans chacune des filières, avec une remise en musique, on va dire, des interprofessions, du rôle des interprofessions, pour écrire des plans pour une montée en gamme vers le bio, vers de la certification, etc. Toutes les filières ont joué le jeu, elles y sont allées. Il y a eu la loi alimentation qui a été mise en place, avec tout un encadrement sur le système des prix, etc. Ils ont l'impression d'avoir fait le travail, si vous voulez, d'avoir joué le jeu. Et aujourd'hui, on ouvre les frontières et en disant, voilà, vous êtes en concurrence avec des feedlots de 30 000...
Feedlots, ce sont des parcs...
Des parcs d'animaux avec 30 000 animaux, alors qu'en France, dès qu'on atteint 200, c'est un scandale vis-à-vis des voisins.
La ferme des 1000 vaches, on se souvient du scandale.
La ferme des 1000 vaches a fait scandale, enfin, il y en a eu d'autres. Ouais. Donc, et à chaque fois, ils ont l'impression de ne pas jouer dans la même cour, alors qu'ils sont dans la même cour. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué parce que, alors, par exemple, pour les produits phytosanitaires dont on parlait, il y a 46 produits phytosanitaires interdits en Europe qui sont autorisés au Canada, dont certains herbicides, par exemple l'atrazine, qui sont des herbicides anciens, pas chers du tout, qu'on peut utiliser très facilement. À chaque fois, en Europe et en France en particulier, il faut trouver des solutions plus chères, plus compliquées, faire de la couverture des sols, enfin, aller vers de l'agronomie. Ils y vont, mais c'est compliqué, ça coûte cher, ça coûte forcément plus cher. Entre passer la bineuse avec son tracteur trois fois l'année ou alors mettre un désherbant qui agit dans les deux jours, vous voyez, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et je vais vous donner un autre exemple. Le glyphosate, sur lequel il y a discussion, sinon plus en Europe et notamment en France. Je suis allée au Canada il y a deux ans, justement, juste avant la mise en place du CETA. Eh bien, les agriculteurs utilisent le glyphosate quelques jours avant la récolte comme moyen de dissécation, c'est-à-dire de dessécher la plante, de façon à pouvoir regrouper beaucoup plus la maturité des grains et pouvoir récolter plus facilement.
Il l'utilise à grande échelle, quoi. C'est-à-dire que c'est des procédés qu'on...
Non seulement il l'utilise en interculture, mais il l'utilise aussi tout près de la récolte, vous voyez. Donc ça, les agriculteurs
Écoutez, en vous entendant, on se dit, on est contre le CETA, là.
Donc vous voyez, on comprend.
Mais il y a les moyens de contrôler, alors, parce que qu'ils fassent ça chez eux, très bien, mais est-ce qu'on a les moyens d'interdire de nous exporter, Philippe de Sertine? On peut contrôler ce qui entre chez nous, non?
Non, mais c'est ça le principe des... C'est ça le principe du traité, des traités tels que les signe l'Europe. C'est en disant, lorsque... la façon dont vous procédez ne correspond pas à la norme européenne, c'est-à-dire on a par ces traités aussi une façon d'exporter la norme européenne. À ce moment-là, c'est simple, vous ne vendez pas chez nous. Ce qui s'est passé d'ailleurs sur la viande de bœuf qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez très très peu d'exploitants qui élèvent du bœuf au Canada qui ont le label européen. C'est pour ça qu'il y a très peu de quantité, parce qu'en fait l'Europe bloque.
Parce que le bœuf canadien n'est pas aux normes européennes, donc ils ne peuvent pas l'exporter.
Le quota d'importation de viande bovine, c'est uniquement de viande bovine sans hormones.
D'accord. Juste un mot sur ces accords, Mathieu Plane, parce qu'on a l'impression qu'on se laisse un peu entraîner par certains pays européens qui sont très libre-échangistes. On pense, à la Suède, à la Hollande, qui doit avoir l'intérêt d'avoir des cargos qui arrivent dans son port de Rotterdam. On pense aux Allemands qui doivent vendre des voitures au Canada. Et on a l'impression qu'il y a des pays européens qui sont très enthousiastes avec ces accords et que nous, pour ne pas faire les éternels mauvais coucheurs, on les signe en se disant tant pis, c'est pas facile politiquement.
Non, mais on voit bien la difficulté aussi actuelle, c'est d'avoir une voix commune en Europe sur ces questions-là. C'est-à-dire que les intérêts ne sont pas forcément les mêmes pour tous. On voit bien, il y a des pays qui sont beaucoup plus exportateurs, il y a des petits pays qui peuvent avoir des marchés au Canada. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que dans cet accord de libre-échange, il y a des marchés publics qui seront ouverts au Canada. Donc il y a des entreprises européennes qui peuvent aller justement avoir des marchés publics.
Mais on voit construire des écoles, par exemple, aussi bien, c'est ça?
Je suppose construire des écoles, un certain nombre d'infrastructures, oui, les marchés publics, dont une grande partie était réservée aux entreprises canadiennes. Mais la question est là-dessus aussi, c'est-à-dire comment aujourd'hui on va réussir aussi à ratifier, parce qu'il faut quand même l'accord de l'ensemble des assemblées ou des parlements des pays européens pour que le traité soit complètement installé et ratifié. Or, aujourd'hui, on est dans une procédure, il y en a 13, je crois, qui ont ratifié, mais on voit que c'est loin d'être évident pour tous les pays.
Il y a 38 parlements, toi.
38 parlements, si vous comptez, effectivement,
les parlements régionaux. Oui, parce qu'en Belgique, il y en a deux, on se souvient de la Wallonie, avec Paul Magnette, qui s'était opposé à ce traité du CETA. Alors, le CETA est déjà appliqué, on l'a dit, de manière partielle et provisoire depuis près de deux ans, depuis septembre 2017. On peut déjà dresser un premier bilan, alors très positif, vous avez rappelé les chiffres, très positif selon l'Union européenne, mais pas suffisamment pour lever les craintes des éleveurs français notamment, qui, on l'a dit, continuent de redouter la concurrence de viande canadienne. Sujet de Pierre-Millet Bellando, Emmanuel Bach et Marie Justet.
dans les vallées du Cantal, elles sont reconnaissables à leur pelage rouge. Les vaches salaires, référence française, réputée pour leur lait et pour leur viande. Éric Favre en compte 80 dans son exploitation, toutes élevées selon les normes européennes.
Chez moi, en train d'engraisser, ça veut dire 6 génisses sur une parcelle de 7 hectares d'herbe. Et elles s'engraissent naturellement juste en mangeant de l'herbe. Les génisses, là, moi, qui seront prêtes pour le mois de novembre, la même au Canada, elle est prête à tuer déjà. Elle va rester 6 mois de moins sur l'exploitation. Donc le turnover est bien plus important chez eux que chez nous.
C'est les antibiotiques, tout ça, qui font que...
Ah ben oui, on fait les antibiotiques, activateurs de croissance, farine animale, et qui font que les bêtes s'engraissent beaucoup plus vite.
Comme une majorité d'éleveurs français, Éric Fabre redoute qu'avec le CETA, les règles ne soient plus les mêmes pour tout le monde. D'autant plus que dans le cadre de l'accord, les importations canadiennes ne concerneront pas n'importe quelle partie de la vache.
Tout le dessus de la vache et les côtes et entrecôtes.
On appelle ça comment ?
Non, on appelle ça la loyaux.
Les parties nobles du bovin, plus chères à l'achat. C'est ce marché-là que la viande canadienne viendra directement concurrencer.
C'est quasiment certain qu'elle va se retrouver sur la restauration au foyer. Donc les cantines, les restaurants, et notamment dans les grandes villes. Pourquoi elle va préférer ? C'est sûr qu'elle va être moins chère que la nôtre. Elle coûte beaucoup moins cher à produire. Nous, le niveau d'exigence chez nous est tellement haut, mais que tout ce qu'on peut faire, nous, coûte cher.
Cette concurrence est-elle vraiment injuste ? Trouvera-t-on dans nos assiettes des viandes moins contrôlées que celles provenant d'une salaire du Cantal ? Longtemps, les contours exacts du CETA sont restés flous. Mais petit à petit, l'accord se dévoile. Si l'Europe refuse les viandes élevées aux hormones de croissance, elle est bien plus laxiste sur d'autres domaines. Les farines animales d'abord. Contrairement à ce qu'a longtemps défendu le gouvernement, la viande de bête nourrie à certaines farines animales pourra entrer sur notre territoire. Celles fabriquées à partir de parties non nobles du bovin, comme les poils, le sang ou la graisse, ce qui est interdit aux producteurs européens au nom du principe, je cite, de non-cannibalisme. Concernant l'usage d'antibiotiques, aucun problème, jusqu'en 2022 toutefois, et l'entrée en vigueur d'une réforme les interdisant. En partie fonctionnelle depuis 18 mois pourtant, le CETA n'a vu que très peu de viande canadienne franchir l'Atlantique.
Les craintes pour l'instant d'importation massive de viande canadienne ne se sont pas concrétisées. Sur la première année d'application du CETA, les producteurs ont très peu utilisé leurs possibilités d'exportation. Et pour une raison simple, c'est que pour l'instant, elles ne sont pas prêtes à exporter en Europe. Ça met du temps à se mettre aux normes, à créer les exploitations qui permettent d'exporter vers l'Europe. Mais c'est possible que d'ici un ou deux ans, la filière canadienne soit prête et qu'elle utilise enfin ses quotas et qu'elle puisse exporter la viande.
Mais dans les campagnes françaises, tout le monde ne craint pas forcément le CETA. Les fromagers, par exemple, ont vu leurs exportations vers le Canada augmenter d'environ 8% avec la réduction des tarifs douaniers. Au cœur du Jura, Jean-Charles Arnaud produit du comté, qu'il vend au Canada depuis une dizaine d'années.
Là, on va avoir une pâte, effectivement, donc qui va commencer à s'arrondir. On n'en est pas encore sur des très, très vieux fromages. Mais par contre, ça peut bien correspondre sur le Canada, où nous travaillons depuis très longtemps maintenant. Et là, on est sur des fromages donc d'un an d'âge.
Mais au-delà de la simple question économique, l'importance de l'accord serait ailleurs.
Sur le long terme, ces produits qui sont des produits essentiellement culturels, c'est évidemment Comté où nous sommes aujourd'hui, mais c'est Roquefort, ce sont nos grands vins. Avoir la protection, effectivement, donc, de ces noms, c'est essentiel pour nous et pour notre agriculture.
Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, le secteur fromager québécois notamment craint l'arrivée massive de produits européens à plus bas coût qui pourraient inonder le marché.
Alors, question téléspectateur, si le CETA est ratifié, est-ce que l'Union européenne sera obligée d'accepter les produits alimentaires sans les précautions européennes ? C'est vrai, Nicole, vous renvoyez à la question des farines animales. Pour nous, c'est l'horreur absolue, les farines animales. On rappelle que c'est ce qui avait déclenché la crise de la vache folle.
Oui. Alors, on peut pas. Enfin, c'est pas si simple que de répondre à cette question.
Oui, parce que ce sont des farines animales.
Alors, donc, effectivement,
non dangereuses là.
En Europe, on a tout interdit au niveau. Il y a eu un tel traumatisme, comme vous disiez, qu'on a absolument interdit toutes les farines animales, mis à part les poissons qui peuvent manger des farines animales, c'est autorisé en aquaculture. Sinon, on a interdit les farines animales, y compris entre espèces.
Et celles qui ne présentaient pas de risque, hein, voilà. Issues à partir du gras ou des cheveux.
Alors,
etc.
Ça, les effectivement, poils. Au Canada, il reste la possibilité d'utiliser des farines animales issues de produits non nobles. Comme on vient de le voir, et chauffé à très haute température. Et effectivement, après discussion, le ministère de l'Agriculture a reconnu que ces viandes issues d'animaux ayant consommé ce type de farine animale entreraient, parce qu'il n'y a rien de prévu en fait, dans la réglementation, et comme elles sont considérées comme non dangereuses, c'est très compliqué de mettre en place une réglementation les interdisant. Vous voyez, c'est pas, on n'est jamais dans le tout blanc, tout noir. Et d'accord. Là, en l'occurrence, il y a un sujet. Effectivement.
C'est sûr, c'est là qu'on voit que le principe de précaution, qui pour nous est une espèce de seuil, de bouclier qu'on ne veut pas supprimer, pour les autres, c'est un principe de paranoïa. Et qu'on va jusqu'à soupçonner des choses alors qu'ils ont chauffé à blanc des produits qui n'ont aucun risque, rien n'a prouvé que c'était dangereux. Et donc ils disent, pourquoi vous interdiriez nos produits de rentrer ? On a pour l'instant un hiatus entre deux conceptions de la vie, deux conceptions de la sécurité sanitaire, une côté Europe et une côté outre-Atlantique. Et donc c'est bien là-dessus qu'on doit s'opposer. Qui peut penser aujourd'hui en France qu'un Canadien comme nous a envie de s'empoisonner en mangeant ? Et serait une sorte de population suicidaire. Alors, avec le Mercosur, c'est différent. Sur un pays comme le Brésil, où les instruments de contrôle sont squelettiques, où le pouvoir politique veut tout lâcher, on peut avoir une méfiance légitime. Mais les Canadiens, le pouvoir canadien, la société canadienne, est au moins aussi vigilante que nous quant à la santé des enfants. Ils ne sont pas différents de nous. Alors que l'éleveur de fruits d'Aix-en-Provence ou l'éleveur de viande de Salers ait peur de l'aspect économique, ça peut s'expliquer, parce qu'en effet, les marchés sont mouvants. Mais qu'on ait cette grande peur sanitaire, ça semble du côté canadien totalement relever de la superstition.
C'est ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Voilà. Et effectivement, la Commission européenne a une crainte en fait qu'il y ait une plainte auprès de l'OMC pour mise en place de barrières non tarifaires.
Philippe de Sertine, est-ce que si le problème avec ces accords, c'est qu'on entend toujours, et c'est normal, ceux qui risquent de perdre des plumes, et à l'inverse, il y a forcément des gagnants. On sait que l'agriculture française présente un bilan excédentaire en termes de commerce extérieur.
Oui, quand tout à l'heure, vous disiez...
Le cognac, je crois, est exporté pour le libre-échange, à 90%. Non
tout à l'heure, je sautais sur ma chaise quand vous étiez en train de dire les autres Européens qui commercent beaucoup, mais nous, Français, on a l'impression qu'on consomme tout ce qu'on produit. Non, nous aussi, on est des grands exportateurs. L'Europe, c'est la première grande puissance exportatrice du monde, devant la Chine et les États-Unis. Hein. Donc on doit avoir conscience de ça. Hein. L'Europe s'est construite autour de ça, et peut-être on y reviendra tout à l'heure, en disant, après la guerre, la grande idée, c'est pas le hasard, hein, c'est en disant, il n'y a pas la guerre quand on fait des échanges. Quoi. Ou plus exactement d'ailleurs, ou l'inverse, quand on n'échange plus, quand on se ferme, c'est là que les tensions guerrières remontent. C'est la grande idée européenne. Vous voyez, les Européens l'appliquent entre eux, c'est-à-dire en disant on doit dépendre les uns des autres parce que comme ça, on aura moins tendance à se taper dessus. Mais on doit aussi énormément échanger vers l'extérieur. Ce n'est pas le hasard si après 1945, les deux grandes puissances exportatrices, c'est l'Allemagne et le Japon. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, ils ont dit non, mais on vous promet, on recommencera plus, c'est ce qu'on a fait avant. Et donc, la preuve, vous voyez, on va échanger vers l'extérieur. Donc, oui, bien sûr, du point de vue européen et du point de vue français, on a des intérêts énormes à essayer enfin de vendre à l'extérieur. On va dire que le grand avenir dans la manière dont on peut espérer la croissance au niveau européen, c'est pas tellement sur nos marchés, c'est notamment sur l'Asie, par exemple. L'Asie, c'est le grand marché du 21e siècle, et ça le restera. Si on est à l'extérieur de l'Asie, on sera à l'extérieur de la croissance. Et donc, évidemment, ça veut dire que lorsqu'on vend là-bas, il faut accepter de temps en temps aussi d'acheter un tout petit peu de l'autre côté. Quand on est en train de dire l'Asie va être un énorme concurrent, on se dit, du point de vue occidental, le Canada, qui nous ressemble beaucoup dans son mode de fonctionnement, après tout, serait pas mal si on échangeait effectivement entre nous. Alors, c'est vrai que quand vous êtes sur la question agricole, votre reportage montre quelqu'un qui est un éleveur, qui croit en son métier, on voit qu'il aime son métier. Mais il faut dire à quel point les agriculteurs français ont des revenus aujourd'hui qui peuvent être extrêmement faibles. Et que donc, par conséquent, lorsque vous avez des normes très, très lourdes qui les empêchent, et donc qui se transforment en charges, qui les empêchent de gagner beaucoup d'argent et qui ne veulent pas voir à côté de la concurrence qui serait, on va dire, l'élément ultime qui va faire que tout d'un coup, leur exploitation n'est plus rentable du tout, eh bien évidemment, c'est là où on commence à avoir ces espèces de montées en crainte, en inquiétude, en disant « mais ça y est, à nouveau, on nous oublie pour vendre des machines-outils, pour vendre du textile, par exemple, des domaines sur des cosmétiques, des domaines sur lesquels, avec le Canada, on a beaucoup vendu depuis 2 ans. Est-ce que nous ne sommes pas à nouveau les dindons de la farce ?» Et là, c'est vrai que le monde agricole français, on doit l'entendre. Ouais. L'industrie agroalimentaire française, c'est encore la première industrie française, il faut le rappeler. On a tellement sacrifié de pans de l'industrie française dans le passé pour toutes les bonnes raisons possibles, parce qu'il n'y avait plus rien à faire, parce qu'on était plus compétitifs, mais les autres ont continué, ça marchait très bien. Et à la fin, nous, on se retrouve en disant « Ah oui, on a massacré notre industrie. » Sur l'agroalimentaire, on a l'impression qu'on est un peu sur cette pente-là. Et là, effectivement, le cri d'alarme que l'on entend autour du CETA me semble être beaucoup plus un cri d'alarme autour de « Mais c'est quoi la stratégie de la France ?» Pas simplement de l'Europe, hein. De la France par rapport à ce pan entier de notre économie, on a l'impression qu'il n'y en a pas. On a l'impression qu'on répond aux injonctions politiques. On a l'impression que sans cesse, on est en train de répondre à du court terme ou à de, on va dire, de l'attente citoyenne sans vraiment réfléchir à... Au fait, on se nourrit comment dans 25 ans ? Si on se nourrit par nous ou on se nourrit par l'extérieur ? L'extérieur, il appliquera quelle norme ? Les normes françaises ? Non, s'il n'y a pas d'ordre. C'est ça les vraies questions qui se posent aujourd'hui. Et c'est celles-ci que l'on voit retransparaître un peu dans les inquiétudes autour des traités. Et malheureusement, je pense que le monde politique a tendance souvent à aussi les simplifier et les récupérer.
Même si Mathieu Plane... En termes toujours des agriculteurs, la viticulture, les céréales, ce sont des milliards d'excédents en commerce extérieur.
Oui, ça fait partie des...
On vend aux Égyptiens, en Asie, partout.
Oui. Non, on a une balance excédentaire sur certains produits alimentaires.
7 milliards pour 2018.
C'est évident. On voit bien que la question du libre-échange, elle est centrale. Alors, on le comprend bien sur l'Europe, en fait, hein, parce qu'il y a une proximité géographique. Il y a aussi, effectivement, les conséquences d'une Seconde Guerre mondiale, etc. Mais avec le Canada, c'est moins mécanique, c'est-à-dire quand même, il y a l'Atlantique entre nous. Hein. Donc c'est vrai que on comprend moins pourquoi on veut encore passer des accords au-delà de l'Atlantique. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que le libre-échange, ça peut avoir des vertus sur la croissance, mais ça génère souvent des inégalités de secteur. C'est-à-dire que l'exposition ne va pas être la même, effectivement. Là, le secteur agricole risque d'être beaucoup plus percuté que, par exemple, le secteur industriel qui peut en bénéficier. Le secteur industriel, par exemple, notamment la chimie, va certainement bénéficier de ça. Les matériaux de transport risquent de perdre. Il y a une étude du CEPI, justement, qui est un organisme indépendant.
Les gagnants vont gagner encore plus et les perdants vont s'écrouler.
Et on retrouve toute cette mécanique de la mondialisation qui pose problème. C'est que la mondialisation, dans un ensemble, a plutôt généré de la croissance, mais elle a fait des gagnants et des perdants. Et c'est comment vous gérez ces gagnants et perdants, comment vous gérez, et là s'ajoute quand même un facteur supplémentaire qui est la question écologique et sanitaire. Et donc, dans un nouveau monde où on voit qu'il y a quand même cette frontière qui est très rude et qui est très dure, qui est celle de la transition écologique, comment vous gérez le libre-échange avec cette contrainte-là ?
Alors, les accords de libre-échange sont négociés pendant des années en toute discrétion. Pour le CETA, cela a pris 7 ans de négociations. Ces traités semblent faire partie de l'ADN de l'Union européenne. Rien qu'au mois de juin, 2 nouveaux accords ont été signés. Les explications d'Émilien David et Julien Launay.
C'était l'événement central du dernier G20. Les dirigeants des plus grandes puissances européennes, aux côtés de chefs d'État sud-américains, pour célébrer la signature d'un accord commercial attendu depuis longtemps.
C'est un vrai moment historique. Il a fallu 2 décennies pour signer cet accord. Les négociations ont commencé il y a 20 ans tout juste, le 28 juin 1999 à Rio. Ça a été long, souvent difficile. Et nous avons plusieurs fois été proches de réussir. Mais aujourd'hui, nous y sommes enfin parvenus.
Un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Il prévoit de réduire de plus de 90% les taxes douanières sur les produits échangés entre les deux partenaires. Dès le lendemain de cette signature, l'Union européenne conclut un autre accord similaire, cette fois avec le Vietnam, un pays communiste.
Ici au Vietnam, les investissements européens sont relativement modestes. Ils n'ont été que de 8 milliards d'euros en 2016. Avec ce nouvel accord, ils vont augmenter.
Ces accords sont au cœur de la stratégie de l'Union européenne. Elle en a signé avec 9 pays à travers le monde. Pour le moment, seulement 3 accords sont entrés en vigueur, ceux avec la Corée du Sud, le Japon et le Mexique. Cette stratégie très libérale est dans l'ADN de l'UE depuis sa création. Son objectif initial était d'assurer la libre circulation des biens et des personnes.
On a bien vu que dans cette zone de libre-échange, grâce à ça, le commerce s'était développé. Donc l'esprit, c'est effectivement permettre à cette Union européenne, à ce marché unique, de développer son commerce avec d'autres pays, d'autres zones, pour asseoir sa prospérité, en fait. C'est sa croissance économique. C'est grâce au commerce mondial que des emplois sont créés, que la production augmente.
L'Union européenne est actuellement la deuxième puissance économique mondiale, derrière les États-Unis, avec un PIB de près de 16 000 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, l'Union s'inquiète de la position protectionniste de Donald Trump. Le président américain défend une politique éloignée des accords de libre-échange, comme il l'a rappelé à la tribune des Nations Unies en septembre dernier.
Nous rejetons l'idéologie du globalisme et nous adoptons celle du patriotisme.
Un rejet qui pourrait nuire à la croissance européenne et mondiale. Car depuis son accession au pouvoir, Donald Trump n'hésite pas à prendre des mesures à contre-courant du commerce international. Par exemple, les États-Unis se sont retirés du traité de libre-échange transpacifique.
Une bonne chose pour les travailleurs américains.
Les taxes sur l'acier et l'aluminium européens ont augmenté, mais surtout, Donald Trump a lancé une guerre commerciale avec la Chine, l'accusant de concurrence déloyale.
Il est temps de remettre de l'ordre dans les pires accords commerciaux jamais signés par aucun pays dans toute l'histoire.
Depuis un an, derrière les poignées de main officielles, les deux pays se livrent une guerre commerciale sans merci, surtaxe contre surtaxe. Ce protectionnisme est au cœur de la politique du président américain.
Trump a décidé en fait que le protectionnisme allait assurer des nouveaux emplois et surtout une relocalisation de la production industrielle traditionnelle qui était partie dans les pays émergents. Et son idée, c'est que en érigeant des barrières douanières, cette production revienne sur le territoire américain.
Adepte du bras de fer, Donald Trump s'est cependant montré ouvert à un accord commercial avec l'UE l'été dernier. Aux côtés du président de la Commission européenne, il a annoncé la reprise des négociations.
Alors, question téléspectateur, qu'y a-t-il derrière cette volonté manifeste de multiplier à tout prix les accords de libre-échange en Europe ? Christophe Barbier.
Le code génétique de l'Europe. L'Europe s'est construite sur l'échange du charbon et de l'acier, la CECA. C'était entre deux pays, la France et l'Allemagne. Mais c'était le début de l'Europe. C'était mettre en commun les deux ressources, charbon et acier, qui permettaient de faire la guerre. Donc il y avait à la fois une volonté politique de se lier pour ne plus s'affronter, mais il y avait aussi déjà un fonds économique. On a continué avec la PAC, la politique agricole commune. Donc à chaque fois, la construction géopolitique de l'Europe s'est faite sur une base, sur un socle qui était en grande partie économique. Et quand on a essayé autre chose, la communauté européenne de défense en 54, ça a raté. Donc on a constitué cela. Ça s'est aggravé ou accru quand les pays de l'ancienne Europe de l'Est nous ont rejoints. Ils ont rejoint un marché. Ils voulaient rejoindre un marché et l'OTAN pour la protection militaire. Ils n'étaient pas dans le temps dans l'idée de partager des institutions communes, en tout cas pas seulement, mais aussi d'avoir leur supermarché rempli et de pouvoir exporter leurs denrées. Donc c'est fondamental dans cette Europe, Europe qui a été pensée et créée par un certain Jean Monnet, dont le métier d'origine était de vendre des spiritueux français aux États-Unis. Donc il était lui aussi déjà dans cette logique commerciale. Alors on peut derrière dénoncer tout ce qu'on a dénoncé depuis tout à l'heure, les inégalités économiques, les risques de santé, mais au départ, l'idée c'est que la paix se fera en partie par le commerce et que plus on aura des intérêts liés, moins on aura intérêt à se faire la guerre. Pour l'instant, ça a marché entre nous Européens et avec ceux qui pouvaient être nos grands rivaux.
Mais Mathieu Plane, est-ce qu'il n'y a pas une lassitude face à ces échanges commerciaux? Quel est le sens de vendre du Saint-Nectaire à Vancouver et nous d'avoir à Aurillac du sirop d'érable? Et cet été, là, sur les plages, dans les marchés artisanaux, il va y avoir que des babioles made in China, on le sait maintenant. Voilà, il y a une uniformisation des
produits. Alors, c'est la mise en concurrence, c'est ce qu'a dit Christophe Barbier, c'est effectivement l'ADN de l'Europe, c'est le droit de la concurrence, c'est la liberté d'entreprendre, c'est l'ouverture des frontières, c'est diminuer les barrières douanières, de façon à accélérer les échanges commerciaux. C'est effectivement l'ADN. D'ailleurs, on le voit, et ça a été rappelé, les pays européens, globalement, sont les plus gros exportateurs du monde, et l'Allemagne en tête. Donc l'Allemagne, qui est quand même, on va dire, le pays qui domine l'Europe, a aussi cet ADN-là. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui,
qu'elle
je pense...
qu'elle nous impose peut-être un peu maintenant
alors,
à nous.
En tout cas, il y a des tensions. C'est-à-dire voilà. qu'assez clairement, je ne suis pas sûr que si on prend les pays individuellement, entre ceux d'Europe du Nord et l'Allemagne, et ceux d'Europe du Sud, notamment Italie, enfin France, il faudrait voir, etc. Mais il n'y a pas une parole commune. C'est ça qui rend aussi l'exercice extrêmement complexe là-dessus. C'est que l'Europe ne parle pas, à mon avis, d'une seule voix. Et donc, vous vous retrouvez en conflit avec une ADN européenne construite sur cette concurrence, sur ce libre-échangisme, et des peuples qui le sont de moins en moins. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les élections. Il y a quand même un retour assez fort du protectionnisme, d'une idéologie qui va contre, justement, ce droit de la concurrence, cette liberté d'échanger, etc., avec revenir un peu plus avec des frontières qui protègent.
Quand Donald Trump dit les Harley-Davidson, ça doit être made in America. Ça n'a pas de sens que de les faire fabriquer
ça parle politiquement.
En Thaïlande.
Est-ce que c'est... Alors, ça peut être une bêtise économique, mais politiquement, ça parle. Après, c'est jusqu'où on va dans le libre-échange. Et une fois de plus, bien sûr qu'il faut se construire, continuer à considérer qu'on doit échanger avec les autres. Mais la question, c'est qu'il faut réguler ce libre-échange. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui l'Europe qui essaie d'exister là-dedans et les deux grandes puissances qui sont la Chine et les États-Unis qui se font une guerre commerciale comme jamais. Quoi. Et donc, c'est un rapport de force. Et donc, l'Europe, un peu au milieu, essaie d'exister et de négocier des accords autour de
Alors,
ça.
Alors, Philippe Bessertine, est-ce que Donald Trump n'est pas un allié inattendu des écologistes dans ce combat contre la globalisation et ces containers qui sillonnent les océans ?
Oui, mais il n'y a pas que lui. Enfin, on va dire il n'y a pas que. Hein. C'est-à-dire que là, de l'extrême droite, l'extrême gauche, l'écologie, Donald Trump, dans toutes ces périodes de troubles, de crises, de tensions, de changements, on en a connu beaucoup dans l'histoire. Plein de gens, de très très bonne foi, pensent qu'il faut arrêter justement d'ouvrir les frontières, qu'il faut se fermer à l'extérieur. Un des grands défis de demain va être la question des migrants. Est-ce que quand on ferme les frontières, c'est quand même derrière aussi Donald Trump. Je fais la frontière avec le Mexique. Le mur, je ne veux plus que les gens rentrent aux États-Unis. Est-ce que le fait de fermer les frontières, ça vous garantit que vous n'aurez plus le problème? Vous laisserez les gens pauvres à côté, mais ce n'est plus votre problème. C'est ça, c'est aussi tout ça qu'il y a derrière. Je crois, d'ailleurs, quand tout à l'heure vous évoquez l'Allemagne a augmenté. Il y a 25 ans, l'Allemagne était en termes commerciaux en retard par rapport à la France. La France était beaucoup plus exportatrice. L'Allemagne décide d'exporter massivement pour arriver à supporter la dette qu'elle a contractée du fait de la réunification. C'est ça, le grand plan allemand. De dire, c'est en vendant à l'extérieur qu'on va supporter le coût de la réunification. Pour ne pas le faire supporter à l'Europe, parce que l'Europe ne voudra pas le supporter directement. Donc là, vous voyez, ce sont des éléments historiques qui sont derrière. Et quand vous êtes en train de parler des babioles sur les plages...
On est ravis de les acheter.
Oui, enfin, juste votre téléphone portable, si vous importez pas, vous n'allez pas pouvoir le construire. D'accord. En intelligence artificielle demain, là, on est super en retard. C'est-à-dire que si on n'importe pas, demain, on risque d'être effectivement scotché au progrès du XXe siècle et pas du tout à cette nouvelle société du XXIe siècle que la jeune Suédoise demain va venir plaider devant le Parlement français. C'est-à-dire qu'on a besoin des technologies extérieures. Aujourd'hui, les grands calculateurs du monde, ce sont des Indiens. L'Indien qui
on pourrait vous retourner l'argument en vous disant si on avait fermé les frontières, peut-être que l'iPhone, on l'aurait fait made in France.
Oui, peut-être.
Le Minitel, il était made in France.
Peut-être ou peut-être pas. Et surtout, en ce qui concerne aujourd'hui, on va dire la force de frappe technologique qu'il faut pour changer de technologie, on voit que la France seule, voire même l'Europe, a du mal à suivre. D'accord. Les États-Unis sont en train d'importer, on va dire par avion, j'allais dire par conteneur entier, des mathématiciens indiens. C'est là-bas que ça se passe. L'Inde, vous voyez, c'est d'ailleurs notre partenaire juste avant le Canada. Hein. Quand on regardait du point de vue du CETA, le Canada, c'est un tout petit partenaire. C'est le 12e partenaire européen. C'est rien du tout à côté de la Chine, aux États-Unis. Et peut-être toujours pour rebondir sur ce que disait Mathieu Plane, quand vous êtes en train de dire cette frénésie d'échange, mais regardez bien ce qui se passe. Vers où vont les Européens? Le Canada. C'est quoi la frontière du Canada, au fait? Les États-Unis, les Canadiens ressentent aussi quand même la tension avec Trump en se disant, il faut peut-être qu'on regarde sur une alternative. Mercosur, le Brésil, à votre avis, c'est qui, quand vous regardez l'Amérique du Sud, le problème de l'Amérique du Sud? C'est les Yankees, c'est l'Amérique du Nord avec Donald Trump qui devient de plus en plus fou. Donc, ils regardent ailleurs. Quand on est avec le Vietnam, à votre avis, c'est quoi le problème du Vietnam? C'est la Chine. C'est-à-dire, à chaque fois, l'Europe est en train de dire, écoutez, nous, on n'est pas avec des porte-avions, on peut échanger. Échanger, ça veut dire qu'on va vous vendre, mais que vous allez nous vendre.
On est ce partenaire fiable et
exactement.
Stable.
Exactement. Et peut-être avec des normes. Et c'est là où c'est intéressant.
À nous de les imposer, alors
exactement,
les normes sociales,
exactement,
en disant, CO2, etc.
Voilà, nous avons un certain nombre de valeurs que nous portons, et vous allez voir, elles ne sont pas si mauvaises. Vos populations ne seraient peut-être pas mécontentes au Brésil ou au Vietnam d'avoir les normes que nous appliquons. C'est ça, la base de la négociation du traité.
Nicole Ouvrard,
oui, je voulais juste rajouter, effectivement, rappeler que dans un accord de libre-échange, dont on parle notamment de la viande. En fait, la viande est considérée, la viande bovine par exemple, ou porcine, est considérée comme un produit sensible. Et c'est parce que c'est un produit sensible qu'on met en place un contingent à partir duquel il y a un taux de...
Enfin, il y a des résidus
Non. Il y a un taux de droits de douane différent. Donc le marché est ouvert, sauf pour les produits sensibles, comme la viande bovine, comme la viande porcine, pour lequel on a mis un contingent.
Des quotas.
Voilà, c'est ça. Un contingent à partir duquel les droits de douane sont plus élevés, de façon à protéger le marché. Alors après, effectivement, les éleveurs, les filières considèrent que c'est trop, que le contingent est trop élevé.
Ouais,
mais c'est ça le principe.
On cherche quand même à se protéger sur ces denrées sensibles que sont la viande porcine et la viande de bœuf.
Voilà, exactement.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, qui va exporter le plus ? Nos éleveurs qui font de la qualité vont-ils devoir lutter contre le dumping face à une viande bas de gamme ? Qui veut répondre dans ce combat haut de gamme, bas de gamme, prix contre qualité.
Il faut faire confiance aux consommateurs parfois. Au moment de la vache folle, vous l'avez dit, on a tous regardé, les restaurants affichaient viande en provenance de Grande-Bretagne, Hollande, France. Et donc là, sur les beaux morceaux, puisque c'est l'aloyau dont il était question, l'éleveur le rappelait, eh bien, dans les restaurants, on va pouvoir regarder, on va pouvoir demander si c'est de l'aloyau franco-français, c'est-à-dire élevé pendant 6 mois de plus dans des vrais champs, ou si c'est de l'aloyau gonflé à la mode canadienne. Donc on pourra faire exercer ce droit du consommateur. Alors évidemment, c'est plus facile quand on est un peu éduqué, un peu informé, qu'on va au restaurant. Quand on va dans les cantines scolaires, qu'on n'a pas payé cher parce qu'on est pauvre, il faut être beaucoup plus vigilant. Et là, c'est à la puissance publique de se substituer au consommateur qui n'a pas les moyens d'être lucide pour imposer les normes minimales.
C'est là qu'on risque de la retrouver, la viande canadienne, dans les plats préparés ou dans les cantines ?
Le problème aussi, c'est que le consommateur français, il n'est pas toujours très cohérent avec lui-même, d'une certaine façon. On voit aujourd'hui que même dans le secteur du bio, ce qui se mange le plus et de plus en plus, c'est le steak haché. Donc,
et alors
le steak haché, on peut y mettre ce qu'on veut.
Bah, sauf s'il y a une bonne traçabilité, non ?
Oui,
non, elle est plus douteuse en matière de steak haché.
C'est plus compliqué qu'à tracer. Voilà.
Donc, est-ce normal qu'un produit qui a fait des milliers de kilomètres soit moins cher qu'un produit local, Mathieu Plane ? Ça, c'est vrai que ça défie l'entendement. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire venir ?
Ça pose, effectivement, ça pose la question du coût de production réel si on intègre tout ce qu'on appelle les externalités. C'est-à-dire, effectivement, le transport et si on met un prix au carbone. C'est sûr que si le carbone n'a pas de prix, effectivement, le coût du transport est très faible par rapport aux dommages que ça peut produire
donc
sur la planète.
C'est cette idée d'une taxe carbone aux frontières européennes, pourquoi ne le fait-on pas ?
Alors, elle est très compliquée à mettre en place. Hein.
Parce d'abord, c'est difficile d'évaluer.
Il faudrait bien commencer, vous savez.
Voilà, il faut d'abord être capable de tracer exactement l'origine des produits, sachant qu'effectivement, les chaînes de production sont mondiales aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait un accord quand même global sur savoir comment on conceptualise cette taxe carbone. Mais l'idée, au fond, est plutôt intelligente. Hein. C'est-à-dire, il faut donner un prix au carbone si vous voulez que le local soit plus compétitif.
Et pourquoi on ne le fait pas dans le cadre de cet accord du CETA ?
Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas décidé d'une fiscalité carbone mondiale. Et donc, les avantages comparatifs ne sont pas les mêmes si on n'intègre pas ces effets, ce qu'on appelle ces externalités, qui sont, à mon avis, des vrais enjeux pour le siècle à venir.
Pour mettre un petit peu de complexité à la complexité, en termes de bilan carbone, un produit alimentaire qui vient de l'autre bout du monde en bateau par container peut avoir un bilan de carbone plus favorable qu'une petite camionnette qui a fait 150 km et qui a transporté très peu de volume. Donc tout ça,
mesurer le bilan carbone,
le bilan carbone, il faut peut-être d'autres outils parce que justement c'est pas suffisant en fait.
Mais si on mettait un prix du carbone, en tout cas, ça permettrait justement de rétablir les choses, ce qui fait que la camionnette qui pollue beaucoup paierait plus cher.
Par rapport au dodane qui vous amène votre saucisson.
Alors, l'idée n'était pas de revenir à Alan, mais bon.
La moindre des choses serait de soumettre ce traité à référendum. Vous croyez que si on donnait la parole aux Français, ils voteraient quoi ?
Le référendum est inadapté techniquement à ce genre de traité. On l'a bien vu depuis le début. C'est des centaines et des centaines de problèmes. C'est des échevaux de difficultés toutes contradictoires. Un référendum, c'est oui ou non à une question simple. Si vous soumettez ce genre de traité à référendum, vous basculez évidemment dans un combat idéologique. politique qui va être accaparée par les familles politiques. Alors ça sera pour ou contre Macron, ou bien pour ou contre le capitalisme, pour ou contre l'agriculture, parce qu'on est peut-être en train de parler d'une guerre de retard, là. Il y a ceux qui viendront vous dire, faut pas manger de viande canadienne ni française, faut plus manger de viande du tout, passons dans le vegan, tout ça c'est mauvais pour la planète, les vaches ça consomme trop d'eau, ça pollue. Donc vous voyez, on va donner à ceux qui sont déjà dans un conflit extrêmement idéologique un instrument politique, le référendum, qui déclenche des guerres civiles. Le oui-non n'est pas adapté à un accord où le diable est dans les détails, c'est vrai, mais c'est aussi par le soin du détail qu'on peut arriver à du gagnant-gagnant, y compris pour le consommateur.
À terme, y aura-t-il un ou deux champions de l'alimentaire au niveau mondial? Aurons-nous les GAFA de l'alimentaire? Philippe de Sertine en a longtemps dit que c'était stratégique l'alimentation et que donc il fallait rester maître de sa filière en chaque pays.
En tout cas, quand on regarde ce que font les grands leaders d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire notamment la Chine et les États-Unis, très clairement, eux, ils investissent massivement. C'est-à-dire qu'ils ont compris que ça, c'est quelque chose d'absolument majeur. On a aujourd'hui une épidémie terrible sur le porc, qui sévit sur l'Asie, sur l'ensemble de l'Asie. C'est quelque chose qui sensibilise les populations locales à cette question. Et là, c'est là, on vient au cœur de l'Europe, à la création de l'Europe. Hein. La création de l'Europe, c'était déjà faire que les Européens ne souffrent plus de famine. On a commencé l'Europe en faisant la politique agricole commune, en disant le but, c'est que les Européens mangent à leur faim. C'est ça qu'on a oublié. Pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc oui, c'est absolument stratégique. Et là, la grande question, c'est de savoir est-ce que nous serons capables de continuer à être maîtres de la façon dont nous allons nous nourrir et nous allons gérer notre agriculture.
Les États-Unis ayant un accord de libre-échange avec le Canada, le CETA n'est-il pas la porte ouverte aux importations américaines? Est-ce qu'ils ne vont pas faire le cheval de Troie?
C'est le risque, effectivement, qu'il y ait des filiales de multinationales américaines qui viennent justement profiter de cet accord-là pour justement pénétrer le marché européen et toujours avec cette idée du tribunal qui pourrait justement décider ou pas de savoir si un investisseur pourrait être attaqué l'État, ce qui poserait un certain nombre de problèmes.
Voilà. Et donc le vote solennel aura lieu demain après que Greta Thunberg eut parlé devant les députés. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Elle sera rediffusée ce soir à 22h30. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur France 5.